franceinter.com.
Parenthèse de Laurence Luret. Bonjour Laurence.
Bonjour, bonjour à tous. Et oui, on se retrouve désormais tous les dimanches matins à 8h20. Les auditeurs les plus fidèles l'auront noté. Mais le principe de parenthèse reste le même. Un invité philosophe, historien, sociologue autour d'un thème le plus souvent d'actualité.
Alors ce matin, Laurence, votre chronique est pour tous les accros du portable, de l'ordinateur ou de la tablette, bien connue.
Dont vous êtes bien sûr, bien Patricia. Sûr. Oui, c'est dimanche, vous êtes à peine levé, café, tartine et déjà, vous allumez vos petites machines, vous consultez votre portable, vos mails et peut-être même vos journaux sur votre tablette. Vous ne pouvez plus vous en passer, vous voulez tout savoir, tout anticiper. Quel temps fera-t-il le week-end prochain? Bonjour Eric Sadin.
Bonjour.
Bienvenue chez les Lève-tôt du dimanche matin. Bienvenue à France Inter. Vous êtes essayiste et romancier. Vous publiez simultanément deux livres, un roman et un essai intitulé « La société de l'anticipation ». C'est aux éditions Inculte. Alors, cette société de l'anticipation, c'est la nôtre, c'est plus de la science-fiction, ça y est, on y est.
Alors, on a beaucoup parlé des événements du 11 septembre et le 10e anniversaire. Je marque le début de cette propension à vouloir anticiper les événements immédiatement à la suite du 11 septembre, c'est-à-dire devant l'ampleur de la catastrophe, et on marque ça là, dans le champ du renseignement, il y a eu la volonté de ne plus revivre cela et de ne plus être dans des jeux de constats et d'anticiper la fomentation d'attentats ou d'événements délictueux en cours de formation. Et donc, depuis une bonne dizaine d'années, ça s'est amplifié après le 11 septembre, le renseignement s'est chargé à développer toute une série d'efforts, à collecter une infinité de données auprès d'un très grand nombre de citoyens américains et de la planète, et tous les services de renseignement en général, en vue de prévenir et de développer des simulations possibles de risques annoncés.
Mais Eric Sadin, pardon, en même temps, c'est une vieille idée de vouloir tout anticiper. Qu'est-ce qui a rendu ça possible?
Alors, c'est un état de la technique contemporaine qui a rendu possible ça, et on se rend compte que ça s'est subrepticement... ça a un subrepticement imprégné de nombreux autres champs de la socialité, cette vieille propension anticipative, anthropologique, c'est-à-dire c'est associé à l'histoire humaine de vouloir anticiper les événements. La tragédie grecque l'évoque déjà. Mais il y a un état de la technique aujourd'hui, notamment par ce qu'on nomme la numérisation des existences, c'est-à-dire qu'on ne cesse de disséminer des données. Et ces données, elles sont traitées, de plus en plus, elles sont traitées avec des modèles prédictifs qui rendent possible l'identification d'événements en cours.
Mais on disait qu'il y avait trop de données. Les données stockées n'étaient pas traitables.
Alors c'est vrai, il y a à la fois une infinité de production de données et à la fois la capacité de plus en plus affinée, et c'est ce qu'on nomme la sophistication algorithmique associée aux puissances computationnelles, de pouvoir les traiter au mieux. Alors les traiter de façon à créer des profilages du plus grand nombre d'individus de la planète, aussi bien à vocation sécuritaire qu'à vocation marketing. Et de plus en plus, toutes ces données et ces modèles prédictifs, eh bien, ils sont utilisés dans plusieurs champs. Par exemple, dans le champ de la finance, on en a beaucoup parlé. On voit que ce sont des algorithmes, des ordinateurs qui sentent les cours en formation.
Les résultats qu'on connaît aussi.
Avec des résultats qu'on connaît. Parce que ce qu'on évoque là, c'est une tendance très forte. Il y a quantité d'efforts dans de nombreux champs qui sont déployés en vue de tendre vers celle-là, vers l'anticipation des événements. Mais il y a évidemment des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme la météo, on essaye de prévoir, mais parfois il y a des échecs.
Eric Sadin, il y a une étroite imbrication de nos vies avec les systèmes électroniques. En quoi ce rapport à la technique est-il, selon vos propres termes, un rapport fondu?
Alors, il y a un rapport à la technique où la dimension de distance s'est abolie il y a une trentaine d'années au profit d'une miniaturisation qui a induit une portabilité. Alors ça, c'était emblématique dans le Walkman il y a une trentaine d'années, 1979. Donc c'est la miniaturisation, c'est la portabilité, c'est la proximité au corps.
Le tactile.
Et alors après, c'est le téléphone portable, donc c'est pas rien, c'est-à-dire le téléphone attaché au domicile qui entre dans les poches et qui infiltre les espaces urbains et qui modifie peu ou prou les comportements. Et puis il y a 2007, l'avènement du smartphone, qui n'est plus un téléphone, qui est un outil multifonction, qui en plus induit la géolocalisation et qui induit un nouveau rapport à la technique, fondu, et qui, comme je le dis dans mon livre, on opère ou s'opère un passage de la proximité que je viens d'évoquer, un rapport d'intimité. passé. Alors, et cela est encore amplifié par le iPad et le fait que les tablettes, tous ces outils font que ça induit des usages continus au cours des journées et le Wi-Fi et l'enveloppement informationnel, le fait que de plus en plus il y a des hotspots de connexion font que les comportements sont de plus en plus connectés. Et cela induit quoi ? Induit cette prolifération continue de données, ininterrompue et exponentielle au quotidien.
Est-ce que c'est une captation du corps ?
Alors, c'est une captation des mouvements du corps, de ses intentions, de ses gestes. C'est-à-dire que de plus en plus, l'usage de nos outils électroniques rend possible une intelligence de nos comportements. Et cette intelligence de comportement, je le redis, c'est ça l'événement majeur, en tous les cas, à la mesure des données aujourd'hui, des traitements de données. Ce n'est plus, alors ça a été éminemment le cas au cours de la première décennie du siècle, de créer des profils, de connaître chaque individu d'une façon évolutive, en temps réel, ses comportements, ses usages, ses achats, et aussi d'un point de vue sécuritaire, ses degrés de dangerosité. Mais le fait, et je pense que là, il y a un phénomène sociologique, culturel, anthropologique extrêmement important, c'est que maintenant, il y a une capacité, par ces données que nous ne cessons de disséminer, qui sont traitées de façon de plus en plus sophistiquée, de prévoir des événements. Par exemple, je prends l'exemple de ce qu'on appelle la médecine préventive. C'est-à-dire, de plus en plus, on s'éloigne d'une médecine de diagnostic au profit d'une médecine individualisée génétique qui va prévoir des risques possibles et donc décider d'actions avant même l'avènement de pathologie. Là, on est exactement dans le prédictif et dans le préventif. Je parlais de la finance, et c'est idem à l'unisson pour le commerce.
Et Éric Sada, on voit bien que ça a changé également notre rapport au temps. Est-ce que c'est une captation également du désir, de nos désirs ? Puisque si j'achète quelque chose en ligne, l'ordinateur va me proposer un autre produit par rapport au site que j'ai consulté.
Il y a la possibilité, la volonté de, par exemple, vous parlez de consommation, là, d'un acte de consommation, de plus être seulement sur des concordances de connaissances des désirs des consommateurs, mais de devancer les désirs, d'une certaine façon, de pénétrer les cerveaux des personnes en vue de leur proposer en amont, et là, il y a des capacités techniques qui rendent ça, avec toute une série de données traitées, de proposer en amont des produits et des biens que le consommateur pourrait, que désire, mais n'a pas encore formulé consciemment. Et cela crée un double effet. C'est la surprise et une sorte de désir marqué par une conscience qui s'éveille, qui se confirme.
Est-ce que ça emprisonne ou est-ce que ça libère nos vies dans ce paramétrage permanent ? Et je pense par exemple sur les réseaux sociaux, le profil vise à autoriser ou non la mise en contact. Alors que deviennent les hasards, les accidents heureux ? Ou malheureux de la vie.
Alors, il y a quelque chose comme un évitement du hasard qui est souhaité dans nos sociétés contemporaines. Vous voyez, quand on parlait de finance, il y a la volonté de très paradoxale, qu'on aurait dit à une certaine période de l'histoire absolument impossible, de maîtriser le cours du temps. Mais de maîtriser le cours du temps à la mesure de saisir certains résultats du futur, non pas du tout par une sorte de délire ésotérique, mais par des algorithmes capables de sentir, on va dire, des algorithmes qui sentent, presque une dimension anthropomorphique de la technique, et qui rend possible des résultats au présent, des équations projectives, et qui rend possible des décisions au présent. Et en vue de quoi cela ? En vue de sécuriser le présent, et en vue de l'optimiser. Quand je dis sécuriser le présent, je pense par exemple à des logiciels de sécurité prédictive maintenant. Aux États-Unis, il y a le IBM qui a développé des systèmes, dont un système qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai découvert au cours de mes recherches pour écrire mon livre, qui s'appelait Blue Crush, et qui équipe de nombreux postes de police aux États-Unis et de plus en plus en Grande-Bretagne, et qui vise à collecter des données, alors par exemple les données météo, les données de date de versement des salaires, les statistiques des délits, les concerts, les événements qui vont se passer dans la ville, et qui signale à la police, rendez-vous compte, non pas des délits en cours de formation qui ont lieu au présent, mais qui sont avérés comme devant se produire dans un temps plus ou moins court.
Bon, et donc, ben ça,
il y a les envois de brigades.
On est dans la science-fiction et dans
Minority Report. Exactement.
Merci Éric Sadin. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. La société de l'anticipation, c'est le titre de votre essai. C'est publié aux éditions Inculte. Et bien sûr, nous aussi, on anticipe tout sur notre site France Inter. Vous retrouverez toutes les références. Vous cliquez sur chronique, parenthèse. Et vous pourrez même réécouter si vous avez pris cet entretien en cours de route.
Merci Laurence Luret. À dimanche, 8h20. Dans 2 minutes, Yvan Levaille sur France Inter.